You may shoot me with your words.
You may shoot me with
you may cut me with your eyes.
You
may kill me with your hatefulness.
You may kill me with your hatefulness.
But still like life, I'll rise.
Bonjour et bienvenue à cet épisode de l'art d'être humain, où nous explorons les mystères et beautés de la vie humaine, ses paradoxes, et ouvrons toutes sortes de portes reliées au développement humain et leadership de soi. Vous avez peut-être reconnu la profonde et touchante voix de Maya Angelou, poète, militante des droits civiques et écrivaine américaine, récitant son poème « Still I Rise ». Merci d'être là aujourd'hui. Je suis en train de marquer la Journée internationale des droits des femmes en vous enregistrant cet épisode. Vous le savez sûrement, j'accompagne des leaders et exécutifs dans le développement d'un leadership conscient, authentique et humaniste. Et j'accompagne aussi des équipes et organisations pour qu'elles soient des créatrices d'espace et cultures inclusives où l'on nourrit la sécurité psychologique. Et pourtant, quoique on m'a demandé souvent à plusieurs reprises de faire des conférences sur le thème du leadership féminin, j'ai décliné à chaque fois. Le temps n'était pas venu pour moi, j'imagine, et je ne me suis jamais réellement exprimée sur le leadership au féminin. Mais dans les semaines dernières, comme si j'avais semé une question en moi, des réponses me sont apparues, sans vraiment les chercher, à travers des accompagnements de ces femmes leaders. Et c'est comme cela qu'est né l'épisode d'aujourd'hui. Une de ces femmes que j'accompagne a immigré au Canada il y a 10 ans. Elle a regravi tous les échelons de stagiaire jusqu'à exécutive. Adversité après adversité, elle s'est construite en battante. Et un jour, on lui a dit « Maintenant que tu es gestionnaire, tu dois prendre moins de place. » On l'a qualifiée d'arrogante. On lui a dit d'être la plus grande dans la salle en tout temps. Alors elle s'est tue. Elle s'est rapetissée, elle a cherché à éviter les confrontations, elle s'est adaptée et elle s'est perdue en chemin. Cette autre cliente s'est fait dire à maintes reprises « Tu n'es pas assez compétitive, tu dois avoir la couenne dure, tu dois prendre ta place. » Alors à coup de formation, de développement, d'accompagnement, elle a tenté de se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur et elle s'est adaptée. Une autre avec qui je parlais cette semaine dans un accompagnement aussi, qui me partage l'expérience d'avoir beaucoup œuvré dans des milieux masculins, comme moi, dans les Forces armées canadiennes, et elle s'est fait dire pendant longtemps « Tu es one of the boys, tu prends ta place, on aime ça ». Elle avouait que cela résonnait tant pour elle pendant longtemps, ça lui avait fait plaisir d'entendre ses commentaires parce que elle ne voulait surtout pas être perçue comme la pleurnicharde, celle qui est trop émotive par ses collègues, enfouir très loin sa sensibilité pour appartenir. Alors, appartenir ou s'appartenir. Et elle a ajouté, « Je constate maintenant que ça ne me fait plus plaisir tout ça. C'est juste moi, je veux juste être moi. » Et elle ne voulait plus se suradapter. Une autre cliente qui attend un petit bébé en ce moment me demande cette semaine si j'ai aimé être enceinte. Et comment j'avais vécu cette expérience comme femme gestionnaire? Alors, c'est un retour pour moi en arrière de 23 ans. C'était en 2001. J'avais début trentaine, j'attendais mon premier enfant, mon fils, et je travaillais dans une grande firme conseil. Je me rappelle qu'un client m'avait demandé pourquoi je quittais son projet. Il ne comprenait pas. Je quittais en congé de maternité. Mon patron ne lui avait pas dit pour ne pas perdre le mandat. Et je sentais que dans ce milieu masculin, les regards sur moi avaient changé. Je portais des vêtements trop grands pour couvrir mon ventre et mon client n'avait jamais réalisé que j'étais enceinte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou lu le livre « Lean In, Woman, Work and the Will to Lead » en français, c'est « Avant tout, les femmes, le travail, le pouvoir ». C'est un livre publié en 2013 par Sheryl Sandberg. C'est une femme d'affaires et autrice américaine qui est surtout connue pour son rôle en tant que directrice des opérations de Facebook. Elle a écrit dans ce livre « Don't leave before you leave », ne partez pas avant de partir. C'est ce que j'ai fait en quelque sorte, ne pas partir avant de partir, tenir jusqu'au bout, mettre l'emphase sur sa carrière. Et je me questionne, est-ce là un bon conseil? Il y a cette question que me posait ma cliente, ai-je vraiment savouré ma grossesse? Une autre femme leader a réservé intentionnellement sa rencontre avec moi le 8 mars. Elle a fait des super passages significatifs. Elle trouvait symbolique de me les raconter en cette journée spéciale. Elle a 48 ans. Elle m'a partagé avoir été drivée par la culpabilité toute sa vie. Et elle m'a dit, Pascal, j'ai pris conscience de mes croyances et aujourd'hui, je me donne le droit d'exister. L'histoire de ces femmes, c'est l'histoire de milliers de femmes. On en revient souvent à cette fameuse place, celle qui est à prendre, celle que l'on prend trop. Et je me demande, quelle place veut-on réellement faire pour les qualités dites féminines dans nos organisations? Ou bien, sommes-nous encore prisonniers de nos contradictions? Vous rappelez Jacinda Ardern, qui a été première ministre de la Nouvelle-Zélande entre 2017 et 2023, elle a dit ceci. « I refuse to believe that you cannot be both compassionate and strong. Je refuse de croire qu'on ne peut pas être à la fois compatissant et fort. » Voici le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Les résultats de cette étude, publiée en 2022 par le Leadership Circle, « Understanding the differences in reactive and creative orientations between female and male leaders ». Alors, c'est comprendre les différences entre les orientations réactives et créatrices des leaders féminins et masculins, ont été rassemblés dans un archétype. Alors, ce qu'on dit dans cette étude, les femmes sont les « exhausted heroes », les héroïnes épuisées. Cette représentation des femmes leaders, portant le fardeau des défis incessants, c'est une métaphore puissante de la réalité complexe qu'elles vivent, en fait que nous vivons, parce que je m'inclus là-dedans. Nous sommes collectivement confrontés à une vérité qui est assez inconfortable. Les défis auxquels font face les femmes en leadership ne sont pas nouveaux, mais aujourd'hui, armés de toutes ces données et études, on peut affirmer avec certitude que ces défis sont réels. Alors, dans cette étude, on voit que les femmes sont reconnues par leurs pairs et collègues pour performer au-dessus de la norme, et elles se sous-évaluent. Les résultats démontrent clairement que leurs auto-évaluations sont en dessous des résultats des rétroactions. Comment? Alors encore, selon cette même étude, les femmes, dans cette étude, obtiennent des résultats d'efficacité du leadership au-dessus des normes en créant des relations authentiques, en prenant soin des autres, par leurs intérêts sincères des gens, en tentant d'être des modèles, en étant au service, très exigeantes envers elles-mêmes, voire en quête de perfection, en se développant beaucoup, en se conformant aux attentes, en cédant le pouvoir et en se suradaptant. Alors, en résumé, mettre plus d'efforts à exceller, à se développer, à changer et à s'adapter. Mais à quel prix que je me demande? Car il y a un coût à cela, celui de leur authenticité et de leur santé. Ces héroïnes épuisées en paient le prix. Dans le travail humanitaire que j'ai fait et les études que j'ai lues, il y a une étude en 2017 qui est intitulée « Change the context, not the girls ». C'était un appel à modifier les systèmes, les environnements sociaux pour des jeunes filles pour réduire la grossesse chez les adolescentes au Sierra Leone. Et une firme, Center for Creative Leadership, a repris ce titre un peu provocateur, « Change context, not women », changer le contexte et non les femmes. Alors, un événement qui visait à célébrer les femmes auxquelles j'ai assisté aujourd'hui. Et l'autrice et activiste Laura Bates suggère la même chose dans son livre aussi provocateur « Fix the system, not the women ». Alors, vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Ça aborde le sujet de la réforme des systèmes organisationnels et sociaux plutôt que de mettre l'accent sur la modification des comportements ou des attitudes des femmes pour s'adapter à ces systèmes. Alors, la question que je me pose est la suivante. Comment est-ce qu'on peut créer ces changements sociaux? Changer le contexte ou les femmes? En 2016, Verna Myers, elle était vice-présidente de la stratégie d'inclusion chez Netflix. Elle a dit « Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. » La diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. Cette citation est largement utilisée pour illustrer la différence entre avoir une représentation diverse, donc la diversité, et assurer une participation, un sentiment d'appartenance actif, l'inclusion. À quoi bon être invité à une fête si on n'est pas invité à danser? Mais, toutefois, et ça c'est pire à mon avis, à quoi bon être invité à cette fête pour se voir obligée à danser une danse qu'on ne souhaite pas et qui ne nous convient pas. Changer la musique et la piste de danse et pas les danseuses. Alors, changer le contexte est nécessaire. En d'autres termes, changer le contexte implique pas seulement d'inviter plus de danseuses à la fête, c'est pas une question de nombre, c'est de transformer l'environnement organisationnel lui-même, les normes, les cultures, les politiques, pour qu'ils soutiennent et célèbrent activement la diversité des styles de leadership, y compris ceux traditionnellement considérés comme féminins. Et cela va au-delà de la simple inclusion des femmes dans les structures existantes. Cela signifie de remodeler ces structures pour qu'elles soient vraiment accueillantes et propices au succès de tous les leaders, indépendamment de leur genre. C'est donc d'inviter tous les leaders à se développer pour arriver à créer et soutenir ce genre de contexte, à considérer l'intégration des perspectives de genre dans leur leadership et développer tous les leaders, pas seulement les femmes, est nécessaire. J'ai trouvé en Scandinavie, notamment en Norvège, au Danemark et en Suède, et je vous mettrai les références sous le balado, une multitude d'initiatives, des projets, des offres de développement pour les leaders qui illustrent l'engagement en faveur d'un leadership plus inclusif et sensible au genre. On retrouve entre autres des programmes de formation où on parle de « gender responsive leadership ». C'est comme leadership sensible au genre. Alors, vous irez consulter. Et fait intéressant, les statistiques démontrent que les femmes achètent 70 % des livres de développement personnel. 70 % Elles sont plus susceptibles que les hommes d'avoir un mentor. On dit 54 % des femmes ont des mentors contre 48 % pour les hommes. Donc, je suis allée voir les statistiques de mon infolettre audio balado et j'ai constaté, messieurs, que seulement 22 % de mes auditeurs étaient des hommes. Alors, il est important de dire, bien évidemment, que je crois dans le développement. Se développer est nourrissant, ça nourrit un sens profond. Et toutes les femmes que j'accompagne me le disent, elles adorent se développer. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est d'aborder la situation avec une approche systémique. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Là, vous ne me voyez pas parce qu'on est en format audio, mais si vous voyez mon texte, vous pourriez remarquer que j'ai mis des guillemets un petit peu partout. Quand on parle de concepts de féminité et de masculinité, de termes comme « traits de leadership féminin et masculin », il y a des guillemets dans mon texte. Parce que ces caractéristiques ne renvoient pas nécessairement à l'identité de genre. Donc, évidemment, on s'en sert pour catégoriser parce que on en a besoin hein, de faire ces catégories, mais chaque humain, indépendamment du genre, est composé de polarités, partie ombre, partie lumière. Et dans chacune de ces polarités, nous avons des caractéristiques dites, encore une fois les guillemets, féminines et masculines. Alors, en réalité, autant chez un homme ou une femme, on peut retrouver ces qualités, comme par exemple l'affirmation, la sensibilité, la vulnérabilité, dans notre partie lumière ou cachée. Ce n'est pas une question de genre. Alors, nous mettons souvent un contre l'autre, très féminin versus très masculin. Il importe de réconcilier cette contradiction, très féminin et très masculin. Ce « et » crée de l'espace pour être tout ça, indépendamment du genre. Ça nous sort de la polarisation. Ça prend en compte le fait que le leadership est un processus collectif. Un passage d'une seule bonne réponse à plusieurs réponses possibles. Le but du développement de soi, ce n'est pas de devenir quelque chose ou quelqu'un en particulier ou correspondre à des standards ou des styles, mais c'est de devenir un humain complet, cœur, tête, capacité d'action, féminin, masculin, d'apporter toute cette humanité dans notre leadership. Alors, on doit reconnaître que ces termes, traits de leadership masculin ou féminin en eux-mêmes, sont réducteurs et sont simplement utilisés comme moyen de faire des comparaisons relatives. Alors, j'espère qu'à un moment donné dans le futur, nous vivrons dans un monde qui n'aura pas besoin de catégorisation, car aucune catégorie ne peut saisir la complexité inhérente à l'expérience humaine. Avant d'aller dans les solutions plus concrètes, j'avais envie de vous partager ces paroles de Hélène Dorion, cette grande poétesse du Québec. Son poème « Vient le jour » peut être interprété comme une célébration de la vie dans toute sa complexité et sa beauté. Et à la fin, le poème se clôt sur l'idée de mettre fin à l'attente, suggère un passage à l'action et une acceptation. Vient le jour où la beauté borde notre chemin. On se penche sur la vie et aussitôt, on se relève le cœur tremblant plus fort d'une vérité ainsi effleurée. Vient le jour où l'on pose la main sur un visage et tout devient la clarté de ce visage. Tout se nourrit du même amour, d'un même rayon de bleu et boit au même fleuve. Tout va et vient dans un unique balancement des choses. Vient le jour où la vie ressemble enfin à la vie, où l'ombre et la lumière jaillissent du même instant d'éternité que délivre l'éphémère. Vient le jour où la joie et le tourment, la grâce et la détresse, l'amour et l'absence font un. Vient le jour qui arrête l'attente. Et c'est la fin de ma parenthèse. Dans ma quête de solutions, inspirée par les principes de développement vertical du leadership, j'ai compris que le changement doit aller au-delà de la simple acquisition des compétences. Il s'agit de transformer nos perspectives, notre conscience de soi, notre manière d'interagir avec le monde. Le développement, ce n'est pas seulement un chemin vers un leadership plus efficace, mais aussi vers un leadership plus authentique et en phase avec soi-même. Alors, est-ce qu'on doit changer le contexte? Changer les femmes? Changeons le contexte, pas seulement les femmes, pour soutenir la diversité des styles de leadership. Ces mots sonnent comme un appel à redéfinir nos systèmes organisationnels, à créer un environnement où chaque style de leadership est valorisé, où les femmes ne sont plus tiraillées entre les injonctions contradictoires de prendre leur place et ne pas en prendre trop. Vous avez l'habitude de mes questions de réflexion et mes invitations pour les semaines à venir, alors les voici. Une chose à explorer avec curiosité. Alors, je vous invite dans les semaines à venir à réfléchir à comment sont encouragées les diversités d'opinions autour de vous, au travail, à la maison. Vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger. Ce que ça dit, c'est un biais inconscient, en fait. Et ça dit que ce ne sont pas les plus compétents qui s'expriment, mais les plus confiants. Parce que les plus compétents savent qu'ils ne savent pas. Alors, voilà pourquoi il est crucial de créer des espaces où toutes les opinions sont accueillies. Et donc, de relâcher sur nos besoins, d'avoir raison, contrôler, ou bien de se confirmer, de se conformer et d'apprendre à s'affirmer. Alors, soyons curieux. Dans ces espaces de dialogue, posons des questions de curiosité. Comment puis-je aider? Parle-moi de ton expérience. Aide-moi à comprendre. De belles questions pour ouvrir des dialogues. Le monde a besoin de dialogue. Deuxièmement, une chose à laquelle réfléchir. Donc, on doit se rappeler en tout temps que chaque personne est unique. L'expérience de chaque personne l'est aussi. On ne peut pas débattre de l'expérience de quelqu'un, c'est son expérience. L'inclusion, ça suppose l'acceptation sans condition de l'expérience de l'autre, même si elle diffère de la nôtre. Une femme, un défi. Une personne, un défi. Troisièmement, une chose à vous demander. La conscience de soi, c'est la clé. Alors, mettre de la lumière sur ses biais inconscients, découvrir ses super pouvoirs et ses limites, avoir une clarté de ce que l'on veut et ses besoins, pour être capable de faire des demandes claires. Alors, la question pour vous dans les prochaines semaines, suis-je au clair avec ce que je souhaite, ce que je souhaite transformer? Suis-je au clair avec mes besoins et mes valeurs? Vous n'avez pas enlevé quoi que ce soit dans votre recette de leadership. Je suis convaincue que là où vous êtes rendu en ce moment, elle fonctionne. Mais pensez plutôt à ajouter des ingrédients. Par exemple, comment est-ce que je pourrais ajouter de la sensibilité dans mes actions? Agir avec force et compassion, fermeté et bienveillance. En conclusion, je vous dirais que ma vision enrichie de mon expérience personnelle et professionnelle, eh bien, elle envisage un avenir où les femmes leaders ne sont plus confinées dans des rôles stéréotypés. J'envisage un avenir où elles peuvent s'épanouir sans la crainte d'être jugées pour être trop ou pas assez. Dans cet avenir, bien, les organisations reconnaissent que la diversité des styles de leadership est essentielle à leur réussite et leur croissance. Ce texte, qui me sort du corps et des tripes, ce n'est pas seulement une réflexion. C'est un cri du cœur pour un changement profond. Parce que changer le contexte, ça signifie embrasser une diversité des talents, ça signifie déconstruire les normes établies et ça signifie créer un espace où chaque femme et chaque personne peut non seulement prendre sa place, mais la définir elle-même. Un des droits des femmes et de toute personne, en fait, c'est de pouvoir travailler dans des endroits, cultures qui reconnaissent la diversité des styles de leadership, des qualités de tête, de cœur et d'action, la force, la sensibilité et de la vulnérabilité. Qu'on soit reconnu pour qui on est, comme on est, qu'on puisse exister, avoir une place, qu'on puisse embrasser et honorer tout ce qu'on est comme personne et s'accorder la légitimité d'être tout ce qu'on est. Alors changeons le système, pas seulement les femmes, pas seulement les personnes, changeons la musique et le décor, que ces compétences dites féminines fassent partie du décor. Merci, merci, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et pendant ma rédaction. C'est une première pour moi d'aborder ce thème et je souhaite que cela nous permette, vous permette, d'ouvrir des dialogues avec ceux qui vous sont chers à la maison comme au bureau. Continuons de nous élever. Continuons de prendre soin de nos héroïnes du quotidien. Avec tendresse et à la prochaine.
I run.
Out of the huts of history's shame.
I run.
From a past that's rooted in pain.
I run.